Alors, notre invité de ce soir, c'est Monsieur Prince, professeur de lettres modernes à l'Université de Pennsylvanie. Il a été autrefois, il y a 20 ans, je pense, dans le séminaire de Claude Bonhomme, hein, qui est avec nous ce soir. Et Monsieur Prince est quelqu'un qui connaît particulièrement bien la théorie narrative européenne, particulièrement française, et aussi nord-américaine. Et ses longues années d'expérience, ses nombreuses publications, son esprit de synthèse exemplaire, lui permettent d'avoir des aperçus absolument extrêmement riches sur la matière. Il parle ce soir sur les narratologies classiques et post-classiques, et certains d'entre vous ont été présents au printemps de 2004 quand Anska Nuning a parlé sur le même thème. Donc il sera intéressant de voir ce que Joel Prince dira à ce propos ce soir.
Yeah. Merci. Lorsque j'avais communiqué à Jean-Pierre le sujet de mon intervention aujourd'hui, narratologie classique et au pluriel narratologie post-classique, je lui avais également signalé quatre textes éclairant mon sujet et sur la base desquels j'élaborais mes remarques et j'essaierai de préciser ce qu'on entend par narratologie post-classique. Je vais parler de façon relativement informelle, en grande partie descriptive, et sans éviter les répétitions. J'aimerais, pour commencer, dire quelques mots d'introduction sur chacun de ces quatre textes avant d'examiner leur prise de position et leurs conséquences. Il y a d'abord Script, Sequences and Stories, Elements of a Post-Classical Narratology, Script, Séquences et Histoires, Éléments d'une narratologie post-classique, de David Herman, que j'ai eu le privilège d'avoir comme étudiant, et qui est sans doute le narratologue post-classique le plus en vue aux États-Unis. C'est dans ce texte, publié en 1997 dans le PMLA, qui compte 30 000 abonnés et peut-être autant de lecteurs, que la catégorie, sinon l'étiquette post-classique, narratologie post-classique, est explicitement discuté pour la première fois et que la comparaison classique-post-classique se voit explicitement développée. Le deuxième texte, lui aussi, nous vient de David Herman. Il s'agit de l'introduction à Narratologies, New Perspectives in Narrative Analysis, Narratologie, nouvelle perspective d'analyse narrative, qui date de 1999 et qui est un recueil remarqué d'articles rassemblés par Herman, un recueil auquel je n'ai pas contribué, je ne suis pas exactement un narratologue post-classique, auquel je n'ai pas contribué, mais dont le titre, au pluriel symptomatique, m'est en grande partie redevable. Herman amplifie ce qu'il avait ébauché dans son article de PMLA et présente les textes qu'il a choisis en soulignant le caractère post-classique. Le troisième texte, écrit par Monica Fludenick, l'auteur en 1996 de Towards a Natural Narratology, vers une narratologie naturelle, est certainement l'une des narratologues contemporaines les plus influentes, apparue il y a quelques mois seulement dans le volume Companion to Narrative Theory, édité par James Phelan et Peter Rabinowitz. Ce texte s'intitule Histories of Narrative Theory 2, From Structuralism to the Present, Histoire de la théorie narrative 2, du structuralisme jusqu'à nos jours. Et je note en passant que David Herman s'était vu confier la période allant de la préhistoire jusqu'au structuralisme. Floudenec y reprend l'opposition classique-post-classique, esquisse une ou deux histoires de l'évolution des études narratologiques et caractérise brièvement les tendances récentes de la narratologie. Ainsi, en une dizaine d'années, il semble que se soit consolidée, officialisée, la distinction proposée par Herman. Enfin, j'avais choisi un quatrième texte, The Mind Beyond the Skin, L'Esprit au-delà de la peau, de Alan Palmer, publié dans le recueil Narratologies que je viens de mentionner, pour donner un exemple de ce que l'on peut considérer comme de la narratologie post-classique. Palmer s'y inspire des sciences cognitives pour examiner les consciences fictionnelles. Une dernière remarque sur ces quatre textes, ils sont tous, vous avez dû le noter, écrits en anglais, comme si la narratologie post-classique, de même que la notion de post-structuralisme, au contraire de la narratologie classique ou du structuralisme, n'était qu'anglophone ou pratiquement anglo-américain. Ce qui est loin d'être le cas. Il suffit après tout de penser aux nombreux textes germanophones de Manfred Jahn, Ansgar Nüning et Monika Floudenec, à certaines études de Meir Sternberg et Tamar Jacobi à Tel Aviv, et dans le domaine francophone, aux travaux de Genette lui-même sur l'histoire et la fiction, à ceux de Françoise Reva sur la narrativité, au recueil édité par John Peer et Jean-Marie Schaeffer sur la métalepse aujourd'hui, aux pages de ce dernier sur le récit fictif, sans parler même du séminaire dans lequel nous nous trouvons, qui me semble très post-classique d'après les sujets annoncés et même une ou deux séances auxquelles j'ai assisté. Quoi qu'il en soit, il semble que si l'on s'accorde à voir en la narratologie classique une théorie du récit aux ambitions scientifiques et d'inspiration structuraliste, qui examine ce que tous les récits et seulement les récits ont en commun et ce qui leur permet de différer les uns des autres, si l'on se plaît à souligner tout ce que cette narratologie classique doit à la linguistique saussurienne, en tout cas par son intérêt pour ce qui constitue la langue narrative plutôt que les paroles narratives, si l'on compte parmi ses représentants les plus illustres les pères fondateurs français ou francophones, Roland Barthes et le véritable manifeste que représente la célèbre introduction à l'analyse structurale des récits, Svetan Todorov, à qui l'on doit le terme même de narratologie, qu'il définit comme science du récit, Gérard Genette, peut-être le plus influent des narratologues, Grémas et son école sémiotique de Paris, et Claude Brémond, avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler à l'école des hautes études il y a juste 20 ans, en 1985. Les pères fondateurs français, donc, leurs ancêtres russes formalistes ou quasi-formalistes, de lointains compagnons de voyage comme Wayne Booth ou Franz Stanzel, et des disciples ou continuateurs comme Mickey Ball ou Seymour Chapman. Enfin, si l'on considère que les plus belles années de cette narratologie classique furent les années 60 et 70, la narratologie post-classique, qui commence à se profiler dès les années 80, présente un profil relativement différent que je vais tenter de spécifier un peu. Comme le suggère peut-être son nom, la narratologie post-classique ne constitue pas une négation, un rejet, un refus de la narratologie classique, mais bien plutôt une continuation, une prolongation, un raffinement, un élargissement. De la vie même de ses représentants les plus connus, elle l'englobe comme une de ses étapes ou composantes. Elle la repense et la recontextualise, elle en expose les limites mais en exploite les possibilités, elle en réserve les bases et en réapprécie la portée, elle constitue une nouvelle version d'une discipline qui, elle aussi, fut une fois nouvelle. La narratologie post-classique pose les questions que posait la narratologie classique. Qu'est-ce qu'un récit, au contraire d'un non-récit? Qu'est-ce que la couche narrative qu'on trouve dans des objets que nous appelons récits? En quoi consiste la narrativité? Et aussi, qu'est-ce qui accroît ou diminue cette narrativité? Qu'est-ce qui en influence la nature et le degré? Ou même, qu'est-ce qui fait qu'un récit soit racontable? Mais elle pose aussi d'autres questions sur le rapport entre structure narrative et forme sémiotique, sur leur interaction avec l'encyclopédie, la connaissance du monde, sur la fonction et non pas seulement le fonctionnement du récit, sur ce que tel ou tel récit signifie, et non pas seulement sur la façon dont tout récit signifie, sur la dynamique de la narration, le récit comme processus ou production, et non pas simplement comme produit, sur l'influence du contexte et des moyens d'expression, sur le rôle du récepteur, sur l'histoire du récit, autant que sur son système. Les récits dans leur diachronie, autant que dans leur synchronie, et ainsi de suite. Du moins pour certains de ses promoteurs et de ses partisans les plus fervents, il semblerait même qu'aucune question, que rien dans les récits ou dans leurs multiples contextes ne lui soit étranger. En fait, David Herman, dans son introduction à Narratologies, je le cite en traduction, déclare « Notez que j'emploie le terme narratologie très généralement, d'une façon qui le rend plus ou moins interchangeable avec étude narrative. » Cet emploi général reflète d'ailleurs sans doute l'évolution de la narratologie elle-même, ne désignant plus tout juste un sous-ensemble de la théorie littéraire structuraliste, narratologie peut maintenant s'employer pour désigner toute approche raisonnée de l'étude du discours narrativement organisé, qu'il soit littéraire, historiographique, conversationnel, filmique ou autre. Fin de citation. Pour répondre à toutes ces questions, la narratologie post-classique emploie des instruments très divers et fréquemment nouveaux. Non plus la linguistique structurale, disons, mais la linguistique informatique, l'analyse conversationnelle, la sociolinguistique, la psycholinguistique. et non seulement la linguistique, mais toutes les ressources des sciences cognitives et textuelles. Elle se déploie à partir d'un corpus abondant et varié. Les grands récits de la tradition, certes, mais aussi des textes beaucoup moins canoniques et plus retors, plus subversifs, des récits non fictifs, non traditionnels, non littéraires, des récits oraux naturels ou spontanés, des récits filmiques, mais aussi théâtraux, picturaux, musicaux, sans parler de domaines moins narratifs, pour ne pas dire non narratifs, comme le droit, l'économie politique ou la médecine. La médecine comme récit, l'économie politique comme récit, et ainsi de suite. Elle est elle-même plurielle, comme l'indique le titre du recueil édité par David Herman, ainsi que le recours de plus en plus fréquent à des expressions composées pour en caractériser différentes manifestations. Narratologie féministe, narratologie postmoderne, narratologie postcoloniale, ethno-narratologie, socio-narratologie, psycho-narratologie. Elle adopte toutes sortes d'orientations, d'inflexions, d'accents, bakhtiniens, derridiens, psychanalytiques, logico-philosophiques, rhétoriques, éthiques. En son sein, foisonnent les études formalistes du récit, de même que les analyses dialogiques ou phénoménologiques. Les approches aristotéliciennes, tropiques ou post-structuralistes abondent aussi, et les opinions cognitivistes, les points de vue politiques, historiques et anthropologiques, les prises de position féministes, les spéculations queer ne manquent guère. En somme, la narratologie post-classique est, ou se veut, plus réflexive et plus exploratoire que la narratologie classique, plus modeste en même temps que plus modeste en même temps, plus consciente des difficultés de son entreprise, plus utilitaire aussi, plus instrumentale, plus empirique et même expérimentale, plus impure, plus interdisciplinaire et plus ouverte aux courants théorico-critiques qui l'entourent, plus hospitalière et expansive, rassemblant, englobant ce que la narratologie classique essayait de distinguer, de séparer, le critico-interprétatif autant que le poético-théorique, la théorie du récit, la critique narratologique, c'est-à-dire la critique qui se sert d'instruments de la narratologie pour évaluer un texte, accueillant toutes les questions que la narratologie classique s'est forcée de ne plus poser. Enfin, plus portée sur l'idéologique et sur l'éthique, et certainement plus politiquement correcte. On sait combien, jusqu'à présent, la mise en parenthèse de l'histoire, c'était une façon de considérer le structuralisme. On sait combien cette mise en parenthèse peut être jugée réactionnaire. Le remplacement graduel d'une posture classique par des attitudes post-classiques, l'ascendant progressif de ces dernières, peut s'expliquer de plusieurs façons. En premier lieu, à l'enthousiasme suscité par le formalo-structuralisme vont succéder les mises en doute, les mises en question. Après l'ivresse, le dégrisement, après le rêve, le réveil, après l'introduction à l'analyse structurale des récits de Barthes et la sémantique structurale de Grémas, les travaux de Todorov et de Brémond, le chef-d'œuvre qui est le discours du récit de Genette et les réussites indéniables que tous ces textes constituent, un certain essoufflement, un piétinement, et la prise de conscience que le succès n'avait pas été ou n'allait probablement pas être entier. Si, dans le domaine du discours, dans la narratologie qu'on peut presque appeler genétienne, tant l'influence de Genette a été importante, on sait que le grand Larousse donne comme définition de narratologie la définition de Genette et non celle de Todorov, qui pourtant avait forgé le mot. Si dans le domaine du discours, la réussite est éclatante, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine du narré, les résultats ne sont peut-être pas aussi parlants. Il y a prise de conscience que la distance est grande entre structure narrative et forme textuelle, et que la syntaxe narrative est sans doute peu de chose à côté de la sémantique ou de la pragmatique. Alors que le discours du récit constitue un paradigme exemplaire dans le sens originel que Thomas Kuhn donnait à ce terme, au point que l'on a pu penser qu'il ne restait plus qu'à polir, régler, raffiner le modèle genétien, les travaux sur le narré proposent beaucoup moins de paradigmes, suscitent beaucoup de résistance, et ce, malgré les contributions importantes de Todorov, de Brémond, de Grémas, au point que l'on a pu suggérer que les grammaires du récit, je pense tout particulièrement à celles que j'ai moi-même ébauchées il y a bien des années, que ces grammaires du récit étaient des montagnes qui accouchaient de souris. D'autre part, c'est bien connu, les sciences humaines, dans ce qu'elles sont humaines, les humanités, dans le contexte triomphal de la science tout court, ont autant, sinon plus d'intérêt pour l'indiscipliné que pour la discipline, sont romantiques et impatientes, suspicieuses des grands récits et autres vérités, fascinées par le particulier, le local, le singulier, par le style plus que par la grammaire, par le différent plus que par le semblable. Paradoxalement, le tournant narratif qui, dès les années 60 ou 70, accompagna, dit-on, le tournant linguistique, est non seulement un signe de l'essor de la narratologie et des instruments analytiques comme des points de repère qu'elle propose pour caractériser des textes, des objets ou des événements de toutes sortes, et des entreprises intellectuelles ou des domaines scientifiques, l'histoire bien entendu, mais aussi la philosophie, l'anthropologie, les sciences naturelles. Ce tournant narratif est aussi un signe de la retombée de la narratologie, puisque c'est avec lui que le mot même de récit va commencer à déloger d'autres termes, et qu'on emploiera récit pour dire explication ou argumentation, qu'on préférera récit à théorie ou hypothèse, qu'on parlera de récit plutôt que d'idéologie, qu'on substituera récit à fiction, art, message, un peu tout, et que c'est avec lui, avec ce tournant narratif, que le scientisme narratologique, comme on a pu l'appeler, va être ébranlé, pour ne pas dire réfuté. Après tout, cette science du récit n'est peut-être qu'un des multiples exemples de son objet. Elle n'est peut-être elle-même qu'un autre récit. On dit souvent en anglais « if you can't beat them, join them ». Si vous ne pouvez les battre, joignez-vous à eux. Forcé de revenir de ses prétentions et de ses illusions, sous peine de condamnation pour naïveté et d'exclusion pour scientisme, remise à sa place par la critique du structuralisme qui va vite être baptisé, du moins outre-Atlantique, post-structuralisme, et par une dévotion toujours vivace à l'histoire et au contextuel, craignant d'être dépassé, débordé, laissé pour compte par des disciplines ou des sous-disciplines de plus en plus sensibles aux inflexions et influences de la race, de la classe, du genre, la narratologie essaye de les assimiler, de s'y assimiler, sans abandonner la plupart de ses questions ou de ses acquis, et par là même, elle va devenir post-classique. Mais ces explications que j'ai avancées sont peut-être trop grossières et l'histoire que je viens de raconter est peut-être trop dramatique. Peut-être que, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, la transformation d'une narratologie classique en des narratologies post-classiques à partir de 1980-85 selon Hume et Cloudenay, peut-être que cette transformation n'est pas tellement radicale. Peut-être qu'il s'agit d'une évolution, pas d'une révolution. Et d'une évolution on ne peut plus normale, on ne peut moins inattendue. Peut-être que la narratologie classique est toujours déjà post-classique, de même que le moderne est toujours déjà post-moderne, et que le structuralisme est toujours déjà post-structuraliste. Faut-il rappeler que l'histoire de la narratologie, comme sa préhistoire, a été marquée depuis le début non seulement par la diversité des inspirations, linguistique évidemment, mais aussi anthropologique, rhétorique, philosophique, par la diversité des inspirations et aussi par les controverses, les transformations et les remises en question. Lévi-Strauss, Rabrouan propre, Gréma, c'est vraiment le remaniant très profondément, Van Dyck reconfigurant Todorov, et beaucoup de praticiens divergents quant à la nature même de la discipline. Par ailleurs, que de champs d'études connaissent une interaction souvent imprévisible et souvent intense avec de nouvelles technologies ou de nouveaux domaines et contextes qu'ils ont touchés ou pénétrés. Dans le cas de la narratologie, il y aurait alors le passage normal, si l'on peut dire, d'une linguistique structurale à des linguistiques nettement différentes, transformationnelle, générative ou informatique, par exemple, et avec cette dernière, avec la linguistique informatique, un intérêt pour les scripts et les scénarios, c'est-à-dire un intérêt pour l'encyclopédie et le contexte. Il y aurait aussi, avec la conquête de l'Amérique, et beaucoup d'avantages, outre les apports des explorations jamesiennes de la technique narrative, ceux de la philosophie analytique de l'action, ou encore ceux des actes, de la théorie des actes de parole, c'est-à-dire un intérêt accru pour la pragmatique. De plus, peut-être que les modifications apportées par le post-classicisme narratologique ne sont finalement pas aussi importantes qu'on pourrait le croire. Après tout, William Hendricks soulignait il y a déjà plus de 30 ans la difficulté de passer algorithmiquement, de façon systématique, d'une structure narrative profonde à sa manifestation sémiotique, et il insistait aussi sur l'importance de pouvoir le faire. Brémond et Todorov avaient parlé de virtuel, d'hypothétique et d'optatif avant les travaux décisifs de Marie-Laure Ryan ou de Uri Margolin. Dès la fin des années 60, les analyses sociolinguistiques de récits oraux naturels, proposé par William Lebov et Joshua Woletsky, et le modèle les sous-tendant influence un certain nombre de narratologues. Et c'est avant la fin des années 70 que le problème des degrés de narrativité est explicitement formulé. On me permettra de mentionner aussi que la deuxième édition de mon dictionnaire de narratologie, Dictionary of Narratology, paru en 2003, quelques 15 ans après la première et après le tournant post-classique, peut se vanter d'une bibliographie beaucoup plus longue, mais ne contient que 10 ou 12 nouveaux termes et ne révise qu'une cinquantaine de définitions sur plusieurs centaines, soit moins de 10%, c'est-à-dire finalement assez peu. Il est vrai que l'une de ces définitions, c'est la définition de la narratologie. Si par exemple, dans la première édition, j'insistais avant tout sur l'inspiration structuraliste de la discipline, dans la deuxième, j'ajoutais les lignes suivantes que je traduis en me citant. Ce qui était une discipline relativement unifiée, s'intéressant surtout au récit en tant que récit, type textuel plutôt que contexte, grammaire plutôt que rhétorique, forme plutôt que force, s'est diversifié et manifeste des intérêts plus variés, contextuellement engagés, herméneutiquement orientés, méthodologiquement pluriels. La narratologie structuraliste ou classique a évolué en des narratologies post-classiques. Fin de citation. Peut-être donc que les modifications apportées par le post-classicisme narratologique sont finalement moins importantes qu'on ne pourrait croire. David Herman lui-même semble être d'accord lorsqu'il note que la logique post-classique, je le cite, la logique post-classique de l'indécidabilité peut être appliquée à l'opposition même entre classique et post-classique. Car cette opposition, elle aussi, ne peut être établie une fois pour toutes que ce soit théoriquement ou historiquement. Pas plus qu'une hiérarchie quelconque ne peut être inconditionnellement établie entre ses constituants. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un quatrième texte comme base de mes remarques, ce texte de Alan Palmer sur l'esprit au-delà de la peau. Alan Palmer, je l'ai dit, il analyse la façon dont sont constituées et représentées les consciences fictionnelles. Il se sert du célèbre roman d'Evelyn Waugh, Vile Bodies, ces corps vils, c'est la traduction française, que l'on donne souvent comme exemple de récit behavioriste à focalisation externe. Et il s'inspire de la théorie des mondes narratifs possibles développée par Lubomir Dolegel, Thomas Pavel, Marie-Laure Ryan et Uri Margolin, une théorie selon laquelle il faut considérer le texte comme un ensemble d'instructions à suivre pour constituer l'univers de la fiction. Et il se sert encore plus des travaux de Roger Schank et Robert Abelson sur la façon dont nous interprétons le monde à partir de scripts et de scénarios. Plus particulièrement, Palm explore le continuum action-pensée et la façon dont la description des actes d'un personnage nous renseigne sur la conscience de ce personnage, de même qu'il explore ce qu'on appelle la pensée intermentale ou collective, car il y a évidemment des pensées, des croyances, des sentiments, des désirs collectifs, comme il y a des actions collectives. Post-classique, le texte d'Alan Palm l'est sans doute par l'adoption d'une terminologie, d'une démarche et de concepts empruntés pour la plupart aux sciences cognitives. Mais on peut se demander si l'enrichissement indéniable qu'il apporte à notre conception des esprits fictionnels ou des procédés de caractérisation ou des fonctions de la description dans un récit, ou plus généralement de ce que Wayne Booth appelait rhétorique de la fiction, on peut se demander si cet enrichissement n'aurait pas pu se produire dans le cadre d'une narratologie plus strictement classique. Après tout, c'est dans un tel cadre que l'on a en grande partie développer des catégories telles que, justement, le point de vue ou la focalisation composée ou collective, plusieurs personnages perçoivent simultanément et de façon identique ou différente un ou plusieurs objets, la focalisation partielle, un personnage perçoit un ou plusieurs aspects d'un phénomène, mais pas tous, un bruit, par exemple, mais pas ce qui le produit, la focalisation indéterminée, celle dont la source n'est pas indiquée par le texte, la focalisation clivée, où un même focalisateur donne naissance à deux ou à plusieurs présentations différentes, mais également adéquates des mêmes êtres et des mêmes événements, ou encore la focalisation indécidable, celle où il est impossible de dire si le focalisateur est ce personnage-ci ou cet autre. Mais l'objection est un peu trop facile, la question est oiseuse, et il est difficile de nier l'apport de ce qu'on désigne comme post-classique à notre connaissance du récit. Plus fondamentalement, il est impossible de nier la prolifération des narratologies et des accents qui les colorent, comme il est difficile de nier le fait que narratologie, maintenant, est souvent synonyme d'étude narrative. Souvent, pas toujours, il suffit pour s'en convaincre d'assister au congrès annuel de la Société pour l'étude du récit littéraire, la Society for the Study of Narrative Literature, où seul un nombre très limité de sessions, à portée plus générale ou théorique, porte le titre de narratologie. Comme le souligne David Herman, alors qu'en 1980, David Lodge, critique de tendance formalo-structuraliste, qui est aussi l'auteur de Changement de décor et d'Un tout petit monde, et le créateur de l'inoubliable Margaret Sapp, type de la superstar universitaire américaine, alors qu'en 1980, David Lodge distinguait nettement trois domaines dans le champ des études narratives, celui d'une quête et d'une formulation de la langue narrative, celui de la poétique du récit et de la fiction, de la description des techniques de représentation narrative, et celui de l'analyse rhétorique, l'analyse du niveau de la manifestation textuelle. De nos jours, je l'ai déjà remarqué tout à l'heure, ces trois domaines et d'autres encore se sont amalgamés. Alors que l'on distinguait la narratologie de la critique narratologique, comme d'autres approches critico-interprétatives ou évaluatives des récits, on tend de plus en plus à ne pas le faire. On peut le regretter tout en étant conscient que l'examen, n'importe quel examen, d'un texte dans un contexte particulier peut illuminer les mécanismes du récit, éprouver la validité et la rigueur des différentes catégories ou distinctions narratologiques et identifier des éléments que l'on a trop négligés ou dont on a trop sous-estimé ou surestimé l'importance narrative. De même que l'on peut regretter la très grande hétérogénéité des méthodes employées pour étudier les textes narratifs. En effet, il est parfois difficile de synthétiser des résultats venus d'horizons très différents. De plus, la distinction des tâches à accomplir et des questions qu'elles impliquent permet de mieux circonscrire un objet d'étude et de progresser de façon plus systématique et plus réfléchie en vue de son éclaircissement. Étant donné un texte comme « Jean devint champion d'Europe et champion du monde », on peut se demander combien d'événements il représente. Ce serait, si vous voulez, la narratologie classique. Et on peut se demander également pourquoi ce texte parle de Jean et non de Pierre ou de Jeanne ou de Marie. Ce serait, si vous voulez, la narratologie post-classique. La narratologie classique essayait d'écarter certaines questions. La narratologie post-classique cède peut-être trop facilement à la tentation de les poser toutes. Cependant, même si elle finit quelquefois par oublier ou par noyer son objet, il est non seulement certain que la narratologie ou les narratologies d'inspiration plus récentes, la narratologie post-classique, a contribué de façon décisive à la bonne santé des études narratives, à ce que Monica Fludenick appelle dans son article « The Rise and Rise of Narratology »,« Grandeur et grandeur de la narratologie ». Il est aussi certain qu'en soulevant toutes sortes de questions, en orientant ses explorations de façon inusitée, féministe, cognitive, postcoloniale ou autre, en fournissant une multiplicité d'optiques différentes pour considérer les récits, cette narratologie découvre et ou invente des procédés, des techniques, des formes, des éléments narratifs inexploités ou insoupçonnés. Je pense par exemple aux observations de Robin Warhol sur les narrateurs engageants ou rébarbatifs et leur corrélation avec des narrateurs ou des narratrices, à celle de Susan Lance sur les catégories de la personne et de la voix et sur les narrateurs publics et privés, ou encore à celle de Uri Margolin sur les narrations polychroniques qui impliquent et emploient un système plurivalent d'ordonnances temporelles, y compris des valences ou des concepts comme « situé de façon indéterminée » par rapport au point de repère temporel X, plutôt que tout simplement avant, pendant, après. Généralement parlant, au moyen de nouveaux instruments, de corpus élargis et d'inflexions originales, les narratologies post-classiques nous encouragent à identifier ou à réexaminer différents aspects du récit et à les redéfinir et les reconfigurer. D'autre part, ces narratologies post-classiques définissent, indiquent ou suggèrent également une série de travaux à poursuivre ou à entreprendre. Certains d'entre eux me semblent particulièrement importants et pour terminer, j'aimerais les discuter très rapidement. Tout d'abord, il faudrait incorporer une voix du lecteur ou du récepteur dans les descriptions du fonctionnement des récits. Peut-être pourrait-on faire ressortir, par exemple, que les ambiguïtés narratologico-textuelles sont résolubles par décision du récepteur. Tel passage utilise ad libitum le singulatif ou l'itératif, tel autre passage adopte le discours narrativisé ou le discours indirect libre. Quand on pense à Madame Bovary, n'est-ce pas, des pans entiers du texte peuvent se lire comme venant du narrateur ou peuvent se lire au contraire comme étant une sorte de discours indirect libre. Tel autre encore implique la coordination ou la subordination. Peut-être pourrait-on faire ressortir que ces ambiguïtés sont résolubles par décision du récepteur et que leur résolution influe sur la manière dont le récit fait sens, ainsi que, bien évidemment, sur le sens du récit. Certes, ménager une voix, une place pour la voix d'un récepteur ne mettra pas fin aux multiples questions concernant le rôle et l'importance de nombreux traits narratifs. Pourquoi les récepteurs estiment-ils ces derniers différemment? À quel point sont-ils sensibles aux changements de distance ou de point de vue? Comment construisent-ils divers types d'auteurs impliqués? Sur quelle base choisissent-ils telle interprétation au lieu de telle autre? Où établissent-ils différents degrés de narrativité? Voilà toute une série de problèmes concrets qui exigent des réponses expérimentalement fondées. Cependant, classique ou post-classique, les narratologues ont effectué peu d'études observationnelles ou expérimentales de ces problèmes, et je crois que nous avons trop souvent eu tendance à prendre des thèses localement persuasives et suggestives sur la réception et la compréhension pour des vérités universelles. Sans doute, ce genre d'étude expérimentale comporte-t-il lui-même un certain nombre de difficultés. Il n'est pas facile de trouver ou d'inventer des spécimens de laboratoire qui ne souffre ni de maladresse, ni de bizarrerie, pas plus qu'il n'est facile d'établir des protocoles pour une détermination valable de traitement textuel et de réaction interprétative. Néanmoins, suivant l'exemple de Peter Dixon et Marisa Bortolussi, que signale Herman aussi bien que Fludenich, de Willy Van Peer et Henk Pan der Maat, Els Andringa ou Richard Gehrig, nous devons essayer de fonder expérimentalement la narratologie si nous voulons rendre compte de ce qui est. Il convient de souligner une énième fois que la théorie doit s'imprégner de réel, la description doit s'accorder au phénomène, le modèle doit correspondre au modelé. Nous devrions donc élaborer un modèle du récit qui soit expérimentalement justifié, qui soit réaliste. Il faudrait aussi que ce modèle soit explicite et complet, qu'il vaille pour tous les récits et seulement les récits, et qu'il caractérise la compétence narrative, c'est-à-dire la capacité de produire des récits et d'interpréter des textes comme récits, d'établir un pont entre structure narrative et manifestation sémiotique. Sans doute l'enthousiasme modélisateur a-t-il diminué depuis les beaux jours de Todorov, Brémond, Van Dyck, Pavel, etc. Ou, du côté des psychologues, Nancy Stein, Jean Mandler ou David Rumohart. Mais bien que la narratologie ait changé, elle n'a pas pour autant, comme le souligne d'ailleurs David Herman, renoncé, je le cite, à son ambition originale de développer le meilleur modèle descriptif et explicatif possible. Il me semble, ce seront là mes toutes dernières remarques, qu'on préfère la narratologie post-classique ou classique, que l'on emploie plus ou moins d'instruments, que l'on souligne ou non l'importance du rapport sémantique-sémiotique, que l'on fasse ressortir ou pas l'importance du contexte, qu'on l'infléchisse en termes d'intérêt particulier ou que l'on refuse de le faire, que l'on pose toutes sortes de questions ou seulement certaines d'entre elles, il me semble que le développement de modèles descriptifs et explicatifs renforcera la narratologie de quelque nature qu'elle soit et facilitera l'étude de son objet. Merci.